BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, bon week-end, excellent pont. Et oui, puisque c'est vrai qu'en ce moment, ce mois de mai, et puis en plus ce mois de mai de 2024 est plutôt favorable à quelques jours de congés supplémentaires, on va pas s'en priver, et voilà, c'est plutôt cool. Merci d'être là, De quoi je me mêle, on est fidèles, même durant ce week-end un petit peu plus allongé. Vous allez voir un peu particulier, puisqu'on va pas parler d'actu, parce que pour tout vous avouer, ce De quoi je me mêle a été enregistré il y a quelques jours, mais on va se faire plaisir. Tout à l'heure en deuxième partie, Lionel Costa, qui est responsable du développement du Labo Fnac, sera avec nous. Et à l'approche de deux grands rendez-vous, vous savez, le foot là bientôt, l'Euro et après évidemment les Jeux Olympiques, on vous donnera quelques conseils pour bien choisir votre télé. C'est vrai que ça bouge pas mal du côté des télés en termes de connectivité, mais aussi d'affichage, de technologie d'affichage. Le Labo Fnac, vous le savez, teste de manière impartiale tous les modèles qui sont disponibles. Le verdict de Lionel Costa, ce sera tout à l'heure. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous suivre. Et tout de suite, une première partie qui, j'en suis sûr, va vous passionner. On découvre ça tout de suite avec Anthony Morel. Merci d'être là et bienvenue. Et merci évidemment de nous suivre à la fois, comme toujours, hein, dès le vendredi midi en exclu, podcast audio sur la chaîne YouTube de Tech & Co. Et puis après, le week-end, audio et vidéo sur BFM Business, bien sûr. Salut Anthony.
Salut François, salut à tous.
Ravi de te retrouver. Anthony Morel, Good Morning Business, RMC, RMC Story, vous le savez, entre midi et deux chaque jour. Alors, on ne va pas parler d'actu, parce que comme je le disais, on ne vous cache rien, hein, cette émission a été enregistrée il y a quelques jours, et c'était compliqué de commenter l'actu, évidemment, hein, voilà, avec ce temps de réponse qui peut parfois être un peu lent. Donc on s'est dit qu'on allait découvrir l'une des passions d'Anthony Morel. Voilà. Vous le savez, enfin moi je connais deux passions d'Anthony, c'est le jeu vidéo, mais ça, voilà, tout...
Ça,
ceux
vrai.
Qui te suivent régulièrement le savent. Une que j'ai appris à découvrir, parce qu'on en parlait comme ça en off, et que les gens connaissent peut-être un petit peu moins, ce sont les escape games.
Absolument.
Tu es fan d'escape games. Ouais. Et ça faisait un moment que ça trottait dans ma tête. Je me suis dit, un jour, il va falloir que Anthony, nous parle de sa passion des escape games, nous dise pourquoi il est accro à ça, et trois, nous donne une petite sélection des escape games que tu as testés. Parce que c'est vrai que ça fait combien de temps que tu t'es plongé dans cette passion des escape games?
Je dirais 7-8 ans, quelque chose comme ça.
Et c'est venu comme ça? D'un coup, tu t'es dit, c'est quoi? Parce qu'en général, c'est avec des potes qu'on fait ça.
Ouais,
non,
c'est ça. En fait, moi, j'ai deux groupes d'amis qui sont vraiment à fond là-dedans. Alors, c'est marrant. Pourquoi j'allais dire, il y a quand même une communauté d'intérêt avec De quoi je me mêle. Parce que les gens, enfin, moi, que je croise qui aiment les escape games, c'est aussi beaucoup des gens qui sont des technophiles. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui ont cet esprit-là, en fait. Tu vois, l'esprit un peu maths, logique et tout. C'est pas systématique, évidemment. Ça veut pas dire que c'est fermé aux autres.
C'est plutôt une activité de geek. Alors, c'est un peu réducteur.
Bien sûr.
Mais en général, les geeks aiment bien les escape games.
Absolument. Et alors, moi, l'histoire de comment je suis entré dans les escape games, d'ailleurs, ça montre bien ça, parce que, en fait, j'ai deux groupes d'amis qui, quasiment au même moment, m'ont parlé d'escape games. Un premier groupe d'amis, un de mes potes qui est data scientist, donc tu vois, on est vraiment dans cet univers-là, et lui qui est à fond dans tout ce qui est jeux de société, il est un peu concepteur dans l'âme et tout. Il m'a dit, ah, c'est génial, t'as jamais entendu parler de ce truc. C'est en fait des salles, tu payes, et on t'enferme pendant une heure, et le but c'est de sortir de la pièce. Je suis quoi, attends, qu'est-ce que c'est que ce machin et tout, et ouais, tu dois résoudre des énigmes et tout ça. Donc ça m'avait vachement intrigué. Moi, j'aime bien le côté jeu aussi, tu vois, et donc je m'étais dit c'est cool. Donc on en a fait une ensemble avec quelques autres amis, j'avais trouvé ça formidable. Et quasiment au même moment, j'ai une personne qui me contacte dans le cadre professionnel, pour le coup un gars qui est devenu un de mes meilleurs amis depuis, mais que je ne connaissais pas à l'époque, et qui était l'organisateur d'un festival qui s'appelle Geekopolis, peut-être que tu connais. C'était un festival tech à Paris, enfin geek et tech. Il y avait beaucoup de grandes marques électroniques qui présentaient des produits, etc. Donc là encore, on reste un petit peu dans cet univers. Et il me contacte, et il contacte deux ou trois autres personnes. Et plutôt que d'organiser un déjeuner, comme c'est souvent le cas, tu vois, pour présenter son salon et ses activités, il dit, bah écoute, je sais pas si tu connais, mais moi j'aime bien les escape games. On fait ça de manière informelle, et puis on discute et tout. J'ai dit, ouais, pourquoi pas, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps et tout, donc on y va. Je me pointe là-bas, et il y avait deux ou trois autres personnes qui sont devenues aussi des amis très très proches par la suite. Donc on se connaissait pas, en fait, vraiment. Ouais, hein. Donc on commence, on fait cet escape game, One Hour. Donc c'est une escape où tu dois te sortir d'un hôpital psychiatrique, hanté, enfin bref, t'as tout un truc.
Les hôpitaux psychiatriques, c'est l'un des terrains de jeu les plus.
Ouais, c'est un classique. Hein,
c'est un classique.
Ouais, bien sûr.
Alors on était. Tu rajoutes 2-3 zombies au milieu là.
Ouais, absolument.
Moins, on est bon.
Bah, hein. Surtout qu'on était au début des escape games, donc j'allais dire les scénarios étaient un peu plus classiques et un peu moins élaborés qu'aujourd'hui, même si elle est formidable.
Et cette souvent inspiré. C'est pour ça qu'on revient aussi en à la tech. A souvent inspiré des jeux vidéo.
Oui, alors il y a un lien évidemment.
Tu vois, Resident Evil, tous ces trucs-là.
Ouais, absolument.
Ces ambiances un peu glauques.
Tout à
d'hôpitaux.
Tout à fait. Mais là, c'est comme un jeu vidéo dont que tu vas vivre pour de vrai. Quoi, avec des interactions, etc. Donc voilà, on se retrouve, bon, je raconte l'histoire rapidement. En gros, ça s'est hyper bien passé et depuis, on a une équipe d'Escape Game où on écume les salles de Paris et de la France, enfin, surtout à Paris en réalité, et on a dû en faire quelques, entre 50 et 100 je dirais pour moi. Et un de mes copains, donc celui qui a organisé le truc, qui lui maintenant est concepteur d'Escape Game par ailleurs, on a fait, je sais pas, entre 100 et 200 et probablement plus près de 200.
Est-ce que c'est un effet de mode, dans le sens où est-ce que tu penses que le soufflet des escape games est en train de retomber, ou est-ce que mine de rien, ça reste toujours une activité qui s'installe dans le temps de manière pérenne ?
Écoute, je trouve que ça se pérennise étonnamment bien. Quand ça a commencé et quand j'ai commencé à m'y intéresser, donc on était plutôt au tout début de la phase effet de mode, je me disais c'est génial, je trouve ça formidable. J'en voyais plein qui s'ouvraient un peu comme les boutiques Vapostore et machin, etc. Ouais. Où tu te dis c'est un effet de mode et puis au bout d'un an la moitié elles auront fermé de toute façon. Je me disais ça va être exactement la même chose parce qu'effectivement il va y avoir beaucoup de concurrence, etc. Et en fait là on est quand même quasiment 10 ans après, et encore les escapes ça existe depuis encore plus longtemps que ça, et il en ouvre toujours, il y a toujours du public. C'est un modèle qui est compliqué parce qu'ils se remplissent surtout le week-end, la semaine, tu vois, le mardi à 10h du matin, tu vois, pour faire des escape games, à part faire des séminaires d'entreprise, c'est quand même un peu plus compliqué, mais ils continuent à vivre. Il y a de plus en plus d'innovations, il y a des escape games de la qualité, je veux dire, pas du début, entre ce que c'était il y a 7 ou 8 ans et ce que c'est maintenant, ça n'a plus rien à voir. C'est extraordinaire. On a des choses qui sont absolument géniales. Donc non, j'ai plutôt l'impression que ça se pérennise parce que la qualité a su augmenter aussi, parce que les concepteurs de jeux ont su ajouter des nouveaux types de mécanismes, ajouter des comédiens aussi qu'il n'y avait pas au début. Maintenant, t'en as pour ton argent. Quoi. Quand tu fais certaines escape games, tu vas avoir vraiment, t'as des comédiens humains qui t'accompagnent, tu vas avoir des mécanismes qui ne sont pas seulement au début, en gros, quand t'allais faire un escape game, c'était beaucoup des cadenas, des énigmes logiques, il faut décoder tel alphabet machin, c'est rigolo, mais bon, au bout de tu t'ennuies assez rapidement. Maintenant, tu as des mécanismes qui sont beaucoup, beaucoup plus élaborés, qui vont utiliser les cinq sens, qui vont utiliser en plus de ton sens logique, plein d'autres choses, qui vont pas faire appel justement à des cadenas qui vont te sortir un petit peu de l'ambiance immersive, parce que si t'es dans la vie réelle, t'as pas des cadenas partout, tu vois, et ben là, ça va être beaucoup plus fluide, et donc franchement, c'est aussi ce qui explique que ça dure depuis aussi longtemps.
C'est la question, et après on rentrera un peu dans les détails des types différents, on va dire, d'escape game. Mais est-ce que les rouages sont toujours les mêmes? Parce que c'est un peu comme un jeu de société, quoi, finalement. Tu vois, t'as pas 36 dénouements possibles, etc. Et toi qui en fais des dizaines et des dizaines, est-ce que tu sens les trucs dès que t'arrives, ou est-ce que parfois tu peux toujours être surpris par, on va dire, le déroulé des jeux?
Ouais, tu peux toujours être surpris, et c'est pour ça que c'est génial, et c'est pour ça que je continue à en faire, parce que sinon j'aurais arrêté depuis longtemps. Alors t'as raison de dire qu'il y a des mécanismes qui reviennent souvent. Il y a des mécaniques de jeu qui sont assez classiques et que tu vas voir
les combinaisons,
ouais,
les trucs
exactement.
Comme ça.
Bah, un truc classique, c'est tu sais la petite lampe de poche ultraviolette qui va te faire lire un truc sur le mur. Bon, quand tu vois une lampe de poche un peu bizarre qui traîne, tu sais qu'il va falloir lire un truc sur un mur à un moment. Tu vois, bah, ça c'est pas très compliqué. Il y a plein de petits trucs comme ça. Et effectivement, quand t'as l'habitude d'en faire beaucoup, là ça va te faire gagner du temps parce que directement t'as vraiment des réflexes qui te viennent automatiquement. Mais pour le reste, non, il y a vraiment des encore une fois, hein, parce que c'est un métier, designer, concepteur de salle de jeu, et il y a des gens qui ont du génie pour ça, qui sont vraiment très très forts, qui sont des vrais artistes, qui arrivent à t'imaginer.
C'est du storytelling, en fait.
Mais bien sûr.
On se rapproche de la série télé.
C'est exactement ça. T'as une partie storytelling, t'as une partie conception des rooms, et il y a maintenant des laboratoires spécialisés, je pense notamment à l'Absterium, qui est placé, c'est à côté de Paris, je sais plus si c'est à Gentilly ou à Arcueil, enfin c'est à peu près par là, dans le Val-de-Marne en tout cas, et pour le coup c'est formidable, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois ce côté hyper artisanal où ils vont concevoir des props, bah un peu comme pour le cinéma si tu veux, en utilisant vraiment toutes les techniques de ceux qui fabriquent les props, mais ils vont aussi utiliser de l'électromécanique, de l'impression 3D pour concevoir des mécanismes qui soient à la fois invisibles, bourrés de technologie, avec des capteurs qui vont s'activer quand tu fais tel ou tel geste, du RFID intégré, enfin c'est hyper malin, c'est très très fin si tu veux, et ça pour le coup ça permet de renouveler l'expérience quand tu vas dans les bonnes salles, encore une fois, parce qu'il y a des salles qui sont médiocres, où tu vas avoir 25 cadenas, et il va falloir trouver le code des cadenas, et à la fin de l'heure, tu n'auras fait que des cadenas. Bon, bah, c'est pas génial.
Toi qui en as fait des dizaines, il y a beaucoup d'escape games médiocres.
Non. Il y en a, mais la majorité, je veux dire, alors, ce qui est compliqué, mon expérience elle est purement empirique, je peux parler que de celle que j'ai faite évidemment, et moi quand j'y vais dans une escape en général, c'est que j'en ai entendu parler en bien, donc j'essaye déjà de faire un tri en amont, donc, ouais, j'imagine qu'il y a beaucoup d'escapes qui ne répondent pas à ces critères là. J'en ai fait beaucoup aussi à Paris parce qu'il se trouve que j'habite à Paris, et la qualité moyenne est quand même assez supérieur, dans le sens où c'est pas que les Parisiens sont meilleurs, mais il y a une telle concurrence que bah, t'as intérêt à sortir du lot. Donc c'est là où il y a, pour moi, en tout cas, j'en ai fait beaucoup de très très bonnes à Paris. J'en ai fait aussi dans d'autres villes. J'en ai fait quelques-unes à Nantes parce que j'ai de la famille là-bas aussi. Bon, j'ai un petit peu.
Il y en a partout en France.
Il y en a partout en France maintenant, dans toutes les grandes villes, même villes de taille moyenne. Alors, dans les villes de taille moyenne et petites villes, t'as un gros avantage par contre par rapport à Paris et par rapport aux grandes villes, c'est que l'immobilier coûte beaucoup moins cher. Et ouais, tu peux avoir des espaces extraordinaires. Ouais. Tu vois, j'en ai fait une près de Nantes par exemple qui était assez incroyable. Alors on était plus d'ailleurs dans une expérience de théâtre immersif que dans une escape, même s'il y avait des mécaniques d'escape game, c'était encore dans un hôpital psychiatrique, c'est te dire. Là il fallait que tu t'échappes de l'hôpital psychiatrique, mais genre t'étais poursuivi par un psychopathe pendant une heure, et c'est sur 1000 mètres carrés, donc c'est immense, ouais. Vraiment le truc est gigantesque, et ça fait partie de l'expérience, le fait que tu te paumes un peu, t'as le côté labyrinthique, alors que les escape games quand tu vas à Paris, bon bah c'est pour gagner de l'espace, si tu veux, c'est bien optimisé, mais en général, c'est 3 ou 4 pièces qui sont ultra optimisées au millimètre carré près, quasiment, quoi.
Moi, j'en avais fait un à Saint-Denis, il y a très longtemps, qui était en rodage, donc tout n'était pas parfait, etc. Mais c'était très sympa, et c'était encore un hôpital psychiatrique, avec des zombies à l'intérieur. Et ça m'avait foutu la frousse, parce que t'avais vraiment des comédiens qui étaient hyper bien maquillés, ouais, en zombies et tout. Tu voyais rien, parce qu'évidemment, dans ces trucs-là, c'est exactement un peu comme le train fantôme, quoi. Enfin, il y a plusieurs émotions qui ressortent de ces trucs.
C'était pas Mutation que t'avais fait?
Je sais, tu sais plus. Je sais plus comment
parce
il s'appelle.
Ça, pour le coup, un truc de zombies inspiré de l'escape game à Saint-Denis, il y a un truc qui s'appelait Mutation.
Bah, c'est ça.
Bah, c'est le pote qui m'a initié à l'escape, c'est lui qui a créé ça, en fait.
C'est peut-être lui. Ouais. Et il y avait énormément de bruit horrible, de mecs qui criaient et tout, et tu rentrais là-dedans, tu savais que ça allait être horrible. Et même si tu doutes bien que le mec il va pas t'égorger, et que c'est, tout ça c'est des comédiens, mais ça fout les chocottes quand
exactement
même. Même si tu arrives à te convaincre, c'est un peu comme un film d'horreur. Tu te dis, bah, ça n'existe pas, c'est des comédiens, on va pas lui couper la tête à lui, hein. Mais en fait, on est comme ça, quoi.
Exactement, mais je pense que t'as tout à fait raison, et je crois aussi que c'est une question d'état d'esprit. C'est-à-dire, tu peux aussi arriver dans une escape, comme quand tu regardes un film d'horreur, avec le côté complètement détaché, second degré, en mode, oh, de toute façon, ça n'existe pas, ah, regarde, c'est du faux sang, machin. Tu peux le faire comme ça, mais tu te gâches complètement,
ouais,
l'expérience.
Bien sûr.
Si tu acceptes un tout petit peu d'entrer dans le jeu, ouais, même avec un esprit de curiosité, en te disant, bah, je vais voir, on va voir, oui, bah oui, les zombies,
oui,
ça n'existe pas,
ouais.
On va voir ce que ça donne. Et bah, t'as raison, là, l'adrénaline, elle monte.
Et ça fonctionne.
Et ça fonctionne très, très bien.
Ouais, c'est cool. Et est-ce que la peur est un, on va dire, une composante qui revient souvent dans les escape game, en fait?
Alors c'est un des classiques, effectivement. Alors moi j'ai peut-être un biais cognitif par rapport à ça, parce que j'aime bien, effectivement, moi, les escapes préférées pour moi, c'est les escapes un peu horreur et tout. J'en ai fait beaucoup, j'aime bien me faire peur, j'aime bien les films d'horreur, et j'en ai fait énormément sur cette thématique là donc oui, pour moi ça fait partie du truc, j'adore ça. Après, c'est pas du tout obligatoire, il y a plein d'autres escapes sur plein d'autres thématiques où il y a zéro degré de peur, où, ouais, t'es juste dans la découverte, dans l'immersion, dans la fouille et dans la résolution d'énigmes. Mais oui, la peur, c'est extraordinaire. Je peux te donner quelques exemples.
Ah, hein, mais vas-y.
Moi, mon escape préféré, la meilleure escape... Alors, je vais te parler de deux expériences extraordinaires. La première, c'est vraiment escape, au sens escape pur, la meilleure que j'ai faite de ma vie. Et dans mon groupe d'amis escapeurs, qu'on a tous fait des dizaines, on la met tous dans notre top 3.
D'accord. Donc, c'est vraiment
c'est unanime, on est sorti bluffé. C'est une escape qui s'appelle l'abattoir. Donc le nom, tu vois déjà, tout est dans le nom.
Tout est dit, les gars.
Tout est dit. C'est une escape...
Allez, on va faire l'abattoir, ouais, en escape game.
Écoute...
Quelque chose me dit que ça ne va pas être Disneyland.
Non, c'est pas du tout Disneyland. C'est... une escape game dont le principe est que tu es poursuivi par un serial killer pendant une heure.
C'est ton truc à Nantes ou
non,
c'est autre chose?
Non, c'est encore un autre. Non, j'aime beaucoup être poursuivi par les serial killers. Tu vois, j'en ai fait plusieurs comme ça. mais c'est, là, pour le coup, c'est pas un asile psychiatrique. Mais t'es dans un décor un peu craspec, façon film d'horreur. Les décors sont extraordinaire. T'as un comédien, donc t'as le truc vraiment immersion totale de ce point de vue-là. T'as des mécanismes de jeu qui sont hyper intelligents. Alors je vais pas spoiler parce que c'est le problème de parler des escape games, c'est que très vite tu peux gâcher la surprise des gens. Donc je vais vraiment essayer d'en dire le minimum.
Peut-être un. Parce voilà. En général, il y en a plein.
Bah, en fait, moi il y a un truc qui m'a beaucoup plu, c'est que l'escape game, normalement, le principe, c'est qu'il faut sortir à tout prix. Le but, c'est de sortir d'une pièce, de sortir d'un endroit, de trouver la résolution et puis de sortir. Et en fait, il y a
Un labyrinthe.
C'est un peu comme un labyrinthe, voilà. Et là, il y a un moment dans cet escape où c'est extraordinaire parce que c'est le serial killer qui essaye d'entrer et toi, il faut que tu bloques tous les accès. Donc c'est l'inverse. Il faut que tu t'enfermes au maximum. Et là, je peux te dire que les chocottes... Ah ouais, mais c'est fou. C'est vraiment génial parce que tu sais, il y a vraiment un moment où tu rationalises et tu te dis, mais attends, le mec, c'est un comédien. Ouais. Même s'il entre dans la salle, qu'est-ce qu'il va
qu'est-ce
te faire? Il peut pas te toucher, il peut rien
au
faire.
Au pire, il te fait des guillis, quoi.
C'est ça. Bah, je peux te dire que sur la Garmin, le cardio, il montait bien quand même. Et c'est extraordinaire.
Et là, tu bloques les pièces par des petites énigmes que tu résous qui bloquent des portes ou des trucs comme ça, c'est ça?
Tout à fait. Alors, soit il faut trouver un objet qui va être capable de bloquer tel accès, ou alors effectivement il faut, alors je sais plus exactement, mais décoder un truc qui va verrouiller un cadenas qui va te permettre, enfin qui va empêcher l'accès. Et puis tu vois le tueur qui arrive à une porte, qui commence à taper très très fort, ah là là, mais il faut bloquer absolument celle-là, enfin bref.
C'est rigolo parce qu'en plus, comme tu as l'adrénaline qui monte, tu es moins, enfin la concentration en fait elle est perturbée.
Exactement.
Donc voilà, t'es pas là en train de te poser, tu dois paniquer. Donc
et en plus, alors nous, pour ajouter une dose de stress à ce truc là j'avais fait, alors je révèle un petit truc aussi, mais c'est aussi un truc que tu vois dans certaines escape games, c'est que il y a un de mes amis, bah, toujours le même là d'ailleurs, qui est un petit plaisantin assez, assez sympathique, qui lui avait déjà fait cet escape game, mais il nous l'avait pas dit. Et en fait, du coup, la deuxième fois que tu fais l'escape game, tu peux être complice du game master. Donc lui, à un moment, il disparaît. On sait plus où il était. On dit, mais attends, mais il est où en fait, Cyril? On le voit plus. Et en fait, il faisait partie, du coup, il était complice avec les.
Le psychopathe?
Ouais. Enfin, oh là c'est un truc de horreur. Fou. Donc, t'as ce truc de. Il y a aussi ça, ces mécanismes-là, dans certains escape games. C'est. Il faut essayer de trouver le traître parmi vous, tu peux avoir un complice qui joue un peu avec les game masters. Donc, là aussi, c'est des mécanismes de jeu qui sont assez intéressants.
Est-ce que la durée de vie d'un escape game se limite à une visite?
C'est souvent ça, ouais.
Parce qu'après, évidemment, quand l'effet de surprise est terminé, il n'y a pas de scénarii différents. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, absolument. Tu peux avoir des scénarios différents.
C'est un peu comme un jeu vidéo où tu l'as terminé, bah, tu attaques un deuxième chapitre. Enfin, pas un deuxième chapitre, mais tu as une seconde fin ou des trucs comme ça.
Alors, en fait, tu as très peu de rejouabilité sur la même salle. Après, ce que font certaines franchises, c'est qu'ils vont faire plusieurs salles, mais qui sont liées les unes aux autres. Donc, quand tu finis la première salle, tu peux la faire en one shot et ça pose pas de problème. Mais t'es incité, en fait, à un scénario plus global qui te permet de faire la suite sur la deuxième salle.
La boucle et de boucler la boucle globale.
Ce qui est assez malin aussi, donc ça c'est bien, mais ouais, sur une salle, non. Alors il y a certaines rooms qui essayent, mais je trouve que c'est un argument commercial vraiment foireux de te dire, en gros, les escapes sont parfois très très durs et donc tu vas pas jusqu'au bout. Et donc ils te disent, ouais, mais comme ça tu peux revenir et réessayer. Bah non, en fait, il y a 10 000 escapes à tester, si j'en ai raté une, je vais pas la refaire, c'est clair, enfin, jamais. Donc non, la rejouabilité, c'est un peu aussi une des limites de leur modèle économique, c'est qu'une fois qu'ils t'ont attiré une fois, en fait, tu reviendras pas, ou tu reviendras pour leurs autres rooms. Et c'est vrai qu'il y a des très bonnes franchises qui ont plusieurs salles qui sont excellentes. La salle dont je te parlais pour l'abattoir, pour moi, c'est la meilleure franchise de France.
Et alors,
et de Paris.
Ça, par exemple, cet escape game, c'est un peu comme une franchise d'un resto, c'est-à-dire que tu vas en avoir un peu partout en France.
Ça dépend lesquels. Il y en a effectivement.
Mais l'abattoir, par exemple, elle est où?
Alors, l'abattoir, c'est une franchise qui s'appelle One Hour. Ils sont basés dans le 11e arrondissement à Paris et ils ont d'autres locaux à Paris. Ils en ont plusieurs dans Paris. Je ne sais pas s'ils en ont en France, je ne crois pas à ma connaissance. Et eux, ils ont 5 ou 6 rooms maintenant différentes. Donc
d'accord.
5 ou 6 scénarios différents que tu peux faire en une heure. Et quand je te disais qu'il y a des franchises de plus ou moins bonne qualité, pour moi, eux, c'est les meilleurs en France. C'est-à-dire que vraiment, toutes celles que j'ai fait chez eux, elles sont dans mon top 10.
Okay. Donc vraiment, il y a un vrai savoir-faire.
Il y a un savoir-faire extraordinaire. Et donc, si vous voulez, alors vraiment,
One hour.
Donc l'abattoir, si vous aimez vous faire peur. Il y en a une autre que je conseille souvent à ceux qui font, par exemple, des enterrements de vie de jeune fille ou des enterrements de vie de. Pour les garçons, je ne sais plus comment on appelle ça,
avant un mariage,
ou entre
copines. Pas des enterrements tout court, hein, on est d'accord.
On peut faire un escape, mais enfin bon, ouais, c'est pas forcément de circonstances.
C'est pas idéal, quoi.
C'est pas idéal. Bon, écoute, ça se tente, hein, pourquoi,
pourquoi pas.
Ça peut égayer un peu l'atmosphère éventuellement.
Ouais,
donc, parce que celle-ci, justement, elle est géniale. Elle s'appelle Very Bad Night. Donc, elle est basée sur le scénario de Very Bad Trip. C'est un peu le même truc. Donc, en gros, c'est tu te réveilles le lendemain d'une soirée arrosée. Tu te retrouves dans un immense bordel. Et il faut que tu découvres ce qui s'est passé, en fait. Et c'est hyper drôle. C'est vraiment là, toutes les énigmes sont très très drôles les unes après les autres. Tu passes un super bon moment. Donc, celle-ci, si vous voulez vous amuser, je vous la conseille aussi. Elle est très très bien pensée. Ils en ont fait une basée sur, sur Indiana Jones et l'Arche perdue. Donc là, t'es dans une pyramide. C'est un peu les secrets des pyramides et tout ça qui est hyper bien aussi. Les décors sont incroyables et tout. Donc, vraiment, si vous voulez en faire une pour essayer, One Hour, il y a les Yakuza aussi. Yakuza de Paris qui est extraordinaire. Très très bon scénario où tu dois démanteler un réseau de Yakuza, enfin bon, c'est très très bon.
Question, parce qu'on peut peut-être avoir envie de faire ça, tu vois, un dimanche en famille. Bon, l'abattoir en famille, je suis pas sûr.
Non,
si t'as
alors...
des enfants, c'est
non,
pas...
Non, pour le coup, non.
Tu vas le regretter après,
ouais,
amèrement.
Clairement.
Il y a des trucs qui sont comme ça, plus familiaux, on va dire.
Ouais, bien sûr. Il y a des escapes. Alors,
grand public.
Bien sûr. Alors, il y en a beaucoup qui sont très grand public. Hein. On n'est pas obligé de se faire peur pour s'amuser.
Même si c'est une composante importante, en vrai.
Ouais, ça peut être une composante, mais c'est pas obligatoire du tout. Moi, il y en a une que j'ai faite qui est géniale aussi. C'est une des toutes meilleures que j'ai faites également. Et là, pour le coup, avec des enfants, ça passe nickel. Et sans enfants, ça passe très très bien aussi. C'est Pandore et Associés, ça s'appelle. Voilà. Le scénario, ça s'appelle Règlement de compte. Compte comme un compte, les comptes...
les histoires.
Les histoires.
D'accord.
Et en gros, là, le scénario, c'est que tu es un agent qui doit aller... Enfin, il y a un dérèglement dans les comptes, si tu veux, et donc il faut que tu ailles régler le problème. Et donc, tu te balades de pièce en pièce dans différents comptes. Donc, tu vois, tu te retrouves dans Les Mille et Une Nuits, tu te retrouves dans Hansel et Gretel.
Ouais.
Et donc là, tu as des comédiens aussi qui t'accompagnent. C'est vraiment génial. Les mécanismes de jeu sont extrêmement bien pensés. L'immersion est formidable parce qu'effectivement, tu as des comédiens, tu as des sorcières, tu as des trucs. Je ne vais pas trop dévoiler non plus, mais pour les enfants, c'est vraiment top. Les décors sont dingues et il y a plein de décors qui correspondent à plusieurs contes. Vraiment, ça fait partie des très très bons souvenirs que j'ai. Donc, ça, pour le coup, expérience en famille, Pandore et Associés, formidable à Paris également.
Est-ce qu'il y a aussi des escape games qui nécessitent un niveau supérieur ? Parce que c'est vrai que, il y a des gens qui sont doués pour ces trucs-là et d'autres pas.
Oui.
Et moi, typiquement, je suis nullissime. C'est-à-dire, je vais mettre beaucoup de temps et puis moi, dès que je panique, j'arrive pas à me concentrer sur un truc, etc. Il y a des niveaux aussi d'escape games ou finalement
alors,
pas tant que ça ?
En fait, je fais une petite parenthèse là-dessus. Je pense que tu es beaucoup moins nul que tu ne crois. C'est-à-dire qu'on croit toujours, moi aussi, d'ailleurs je suis pas très bon, même en ayant fait 100, je suis toujours pas très bon, j'ai jamais eu l'esprit très logique.
Bon, mais c'est pas grave.
Non, c'est pas grave, c'est pas grave, moi j'y vais pour l'immersion principalement, c'est ça que j'adore,
ouais,
en fait. C'est ce qui me plaît. Mais en fait, tu te rends pas forcément compte, comme c'est un jeu d'équipe, tu vas pas forcément te rendre compte, toi, de l'apport que tu as eu.
Okay.
C'est-à-dire que peut-être que tu as vu en fait un truc en fouillant. Il y a des gens, ils sont forts en fouille, ils vont observer, ils vont être très forts, ils vont trouver des trucs, alors que d'autres sont nuls, mais par contre, ils ont l'esprit logique. Donc ils vont déchiffrer le code que toi t'aurais jamais déchiffré.
D'accord, donc c'est plutôt une complémentarité de l'équipe.
Exactement. Il y en a d'autres qui sont forts pour communiquer. La communication, c'est hyper important. Et donc toi, si ça se trouve, t'as trouvé que t'as pas fait une très bonne prestation entre guillemets, mais peut-être que le truc que personne avait vu parce que ça traînait là et puis que tout le monde était passé à côté, était en train de réfléchir au code d'après, bah toi tu l'avais vu. Ça te semble évident, mais en fait si tu l'avais pas vu, bah les gens ils seraient pas allés à l'étape d'après. Donc en fait c'est ça aussi qu'il faut voir et c'est ce qui est plaisant je trouve dans l'escape game, c'est justement le côté complémentaire avec le reste de ton équipe. Pour répondre à ta question. Alors, il y a des escape games, oui, avec des différents niveaux. Souvent, c'est un argument marketing pour les escape games de dire, alors nous, il y a tant de pourcentage de réussite. Et franchement, ne croyez pas ça. C'est-à-dire qu'en général, le maître du jeu, il est là pour vous faire passer un bon moment. Et donc, il va adapter le niveau de la room aux joueurs qui sont en face de lui. C'est-à-dire qu'il va te donner plus d'indices.
Parce que l'objectif, c'est pas de gagner, c'est de passer un bon moment,
Exactement. Le but, c'est quand même que, globalement, tu sortes à peu près au bout d'une heure.
Ouais.
Et donc, ils vont, si tu es très bon, si tu es un groupe de compétiteurs qui en fait plein, ils vont te donner zéro indice et ils vont peut-être te mettre des bâtons dans les roues. Mmh. Par exemple, peut-être qu'il y a un maître du jeu qui va entrer discrètement dans une salle où tu ne te trouves pas, ils vont enlever un indice qui te permettait de résoudre
une
énigme.
Ils vont voir que toi, que l'équipe est super bonne.
Exactement. C'est et ça. À l'inverse, ils vont t'aider si tu as un petit peu plus de mal. Et j'allais te dire, méfiez-vous précisément des escape games qui se vantent d'avoir un taux de réussite très faible. Moi, c'est une des pires expériences que j'ai fait. Je ne donnerai pas le nom de l'escape. D'ailleurs, je ne sais même pas si je m'en souviens. Je me souviens du scénario, mais enfin bref, on avait fait une escape avec mon groupe là, et le créateur de l'escape, c'était son titre d'honneur, c'était ça. C'est-à-dire, ah, moi chez moi, il y a que 2% des joueurs qui sortent de l'escape. On était, bah ouais, mais en fait, super, mais si c'est pour frustrer les joueurs, ça sert à quoi ? Donc en fait, le but, c'est d'avoir le truc le plus dur possible. Donc on n'est pas sorti, effectivement. Donc on n'était pas dans les 2% d'élus. Mais au final, on a eu une expérience qui est frustrante. J'aurais préféré que ce soit un tout petit peu moins dur et puis finir l'escape. Après, avec l'expérience, tu te rends compte que le but, même si tu sors pas, c'est pas grave. C'est le plaisir de résoudre des énigmes. Après, si tu te rends compte que t'as fini qu'un quart de la room quand tu sors, c'est un petit peu dommage, quoi. Mais si t'es arrivé près du but et que t'es pas complètement sorti, c'est pas très grave. T'as résolu des énigmes, tu t'es amusé avec tes amis. C'est ça, en fait, qui compte.
On parlait de Paris, du 11e arrondissement, etc. Est-ce que on trouve de bons escape games partout en France ?
Oui.
Tu vois, tu parlais de Nantes parce que tu es originaire de là-bas, mais par exemple dans le sud de la France, partout ?
Il y en a partout. Il y en a partout. Moi, j'en ai fait du côté entre Marseille et Aix-en-Provence, dans je sais plus quelle ville, mais vraiment une petite ville. J'en ai fait à La Roche-sur-Yon, donc pas très très loin de Nantes non plus.
C'est intéressant aussi, c'est que.
Mais bien sûr.
On en trouve partout.
On en trouve partout. On en trouve de bonne qualité. Comme je te disais, le gros avantage quand tu es dans des villes de taille moyenne, c'est que tu peux te faire plaisir avec la place.
Des grands espaces.
Et ça, c'est quand même un très gros avantage, parce que tu peux vraiment t'amuser, là, pour le coup, et faire des trucs qui sont impossibles dans les grandes villes. Donc, tu as en fait des expériences qui sont un petit peu différentes, mais qui ne sont pas moins bien du tout. Mais après, bon, j'ai moins d'expérience, je dois l'avouer humblement, dans d'autres villes, parce que géographiquement, je ne peux pas bouger, je ne peux pas être partout.
On parle de tech dans De quoi je me mêle. Est-ce qu'il y a des escape games qui misent justement sur la technologie? Où tu as été surpris par des innovations, enfin je sais pas, je dis n'importe quoi, mais des hologrammes, un soin tout particulier sur la tech. Ça existe ou pas ?
Ça existe. Pour moi, c'est pas le truc le plus important, mais je trouve que la tech, là où elle a sa place dans les escape games, c'est effectivement dans les mécanismes de jeu, pour inventer des mécaniques de jeu originales et qui soient sans couture pour l'utilisateur qui en fait l'expérience. C'est-à-dire remplacer les jeux de cadenas et de codes à trouver qui sont un peu frustrants par des systèmes de capteurs, par des systèmes qui vont faire appel à tes différents sens, à des diffuseurs, des trucs tout bêtes. Par exemple, des énigmes, alors maintenant c'est devenu classique, mais la première fois que je suis tombé dessus, ça a été un petit effet waouh. C'est l'énigme qui fait appel à ton odorat, c'est-à-dire que t'approches, c'est hyper malin, c'est le truc,
tu as des diffuseurs d'odeur,
exactement. Donc on savait pas comment ouvrir les portes, on savait pas comment déchiffrer le code, et puis on se dit, mais il y a une odeur bizarre quand même ici, c'est étrange. Et en fait, quand tu t'approchais de chaque serrure, t'avais une odeur différente, odeur de vanille, odeur de paprika, de machin, et après ça te permettait de décoder un truc.
C'est malin.
Donc pour moi, la technologie, elle va avoir un rôle dans ce truc là. Après, la technologie pour la technologie, c'est pas forcément hyper intéressant. Je te donne un exemple, c'est les escape games en réalité virtuelle. Ça existe aussi. Moi, j'en ai fait plusieurs. Donc, en gros,
comment ça marche ?
Bah, en gros,
tu rentres dans une salle et tu chausses un masque.
C'est ça. T'as un casque VR, donc c'était un HTC Vive à l'époque. Peut-être que ça a changé maintenant. T'as un sac à dos avec le PC dedans. Donc bon, voilà. Et après, t'es en VR dans l'escape. Mais en fait, je trouve que pour moi, ça n'a pas été une expérience très concluante.
Okay.
J'ai trouvé que c'était un peu pato. Tu vois, en plus, t'es forcément moins agile en VR que dans la réalité. T'as pas ce niveau de dextérité. En plus, au bout d'une heure, avec le casque sur la tête, moi, j'avais moitié envie de vomir, j'étais pas bien. Enfin bref, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Donc, je trouve que, pour le coup, oui, la technologie, elle a sa place dans les mécaniques de jeu. Après, quand c'est vraiment pour faire le show, pour dire, regardez, nous, on a mis plein de tech, c'est pas forcément très pertinent, en fait.
Ouais, voilà, c'est ça. Allez, donne-nous encore un petit coup de cœur là, parmi tous les escape games que tu as pu tester.
J'en ai plein. Alors j'ai un truc. Je vais pas faire que des trucs horreurs quand même, parce que sinon on va dire que c'est quoi ce psychopathe. Il y en a une qui est près de Nantes, qui est extraordinaire, à Saint-Luce-sur-Loire. Moi, c'est la ville dont je viens, donc je suis là-bas où c'est à Carquefou, juste à côté. Enfin bref, les Nantais connaîtront. Ça s'appelle La Noche de los Muertos, donc la nuit des morts. Ouais. C'est une escape.
Ça a l'air gay, ça aussi.
Non, mais si. Alors c'est très gay, justement. La nuit des morts, c'est une fête au Mexique.
C'est vrai, c'est une fête.
Et en fait, justement, donc l'Escape est basé sur cette thématique-là, donc ambiance un peu mexicaine et tout ça, hyper humoristique, justement, avec plein de mécaniques très, très drôles. C'est vraiment... encore une fois, il faut l'expérimenter, je ne vais pas vous spoiler, etc. Moi, il y a un moment, je me suis retrouvé dans un cercueil et tout, c'était très, très cool. Mais plein de trucs très drôles, vraiment. Et l'Escape, pour moi, les mécaniques de jeu étaient extrêmement, extrêmement sophistiquées, très poussées. Le mec qui a créé ça, c'est vraiment un passionné. Il a tout plaqué pour monter son Escape. Et on sent qu'il a ça dans le sang et dans le cœur, quoi. Donc ça, vraiment génial. Cool. Donc si vous avez l'occasion de passer par là, je vous la conseille. Il y a une des expériences les plus extraordinaires que j'ai faites. Alors c'est à Paris pour le coup, et c'est à la frontière entre escape game et un peu théâtre immersif. Ça s'appelle Live Thriller. Live Thriller, c'est une expérience où en gros, on te donne rendez-vous à un endroit, c'est dans une rue, donc t'as pas le sas. En général, quand t'arrives dans une escape, on te propose un petit verre d'eau, on te donne des consignes un petit peu. Là, c'est pas ça, c'est tu commences, t'arrives et t'as un inspecteur qui t'attend, donc un inspecteur du jeu, quoi, un comédien. Et donc, tu fais partie de son équipe, il traque un tueur, il y a toute une histoire, etc. Et en fait, tu vas le suivre et ça se passe dans différents endroits dans le quartier. Donc, tu as trois endroits différents.
Okay.
Tu as y compris une partie filature dans la rue où tu dois suivre à la trace un mec où tu crois au début que c'est un clochard, mais un vrai clochard. Mais en fait, c'est un comédien dans le jeu et il faut le suivre.
C'est top. Ça nécessite une organisation incroyable. Ouais.
Et vraiment, alors là, si vous devez faire un truc entre collègues, un truc un peu team building, etc., ou entre amis, tous ceux à qui je l'ai recommandé ont trouvé ça formidable, se sont régalés. Faites-le si possible à la tombée de la nuit ou le soir, parce qu'il y a une composante là aussi un petit peu peur qui ajoute vraiment à l'expérience. Ça s'appelle Live Thriller.
Okay.
Vous trouvez sur leur site internet toutes les infos. Vraiment une très très grande réussite. Alors n'y allez pas si vous voulez vraiment faire la partie escape, parce que la résolution d'énigmes est quand même très très limitée. Là pour le coup, on est plus sur un peu du théâtre immersif, mais avec une partie quand même résolution d'énigmes. Mais c'est un des meilleurs trucs que j'ai fait. Ouais.
Est-ce que tu penses que on parle beaucoup d'intelligence artificielle générative, etc., etc. Est-ce que toute cette IA qui arrive et qui devient de plus en plus, on va dire, créative et apporte des choses, pourrait aussi apporter sa pierre à l'édifice aux escape games?
Je pense en termes de scénarisation,
Tu vois, rentrer en dialogue avec, par exemple, des personnages virtuels, des choses comme ça, ça pourrait être...
T'as tout à fait raison. Je ne l'ai pas encore vu, mais je pense que le fait de pouvoir générer...
Je pense que ça sera une piste qui va être sans doute étudiée dans les...
Tout à fait. Des voicebots, tu vois, tu pourrais avoir un jeu d'énigmes avec un voicebot qui serait automatisé, qui te répondrait en langage naturel. C'est vrai que pour la partie, par exemple, il y a un truc qui te sort un tout petit peu du jeu, entre guillemets, c'est les indices que te donne le maître de jeu. Parce qu'en gros, tu as un maître de jeu qui suit tout ce que tu fais à la trace.
Oui, bien sûr, qui permet d'accélérer ou pas ta progression.
Et là, alors souvent, c'est quand même scénarisé. Ça peut être un hacker qui a accès au système et donc il voit à l'extérieur et donc il te donne des informations via un smartphone ou une tablette. C'est plus ou moins bien fait, mais souvent, ça te fait quand même un tout petit peu sortir du jeu. Je pense qu'avec l'intelligence artificielle, tu pourrais quasiment avoir un compagnon lequel tu peux discuter en langage naturel, tu vois, et qui pourrait te donner des indices ou pas à certains moments. Effectivement, ça pourrait avoir une vraie incidence, ouais.
Et est-ce que tu t'es retrouvé déjà dans une situation où on te dit que ton smartphone est compagnon de l'escape game? Par exemple, du style télécharger une appli qui a été spécifiquement développée. Je parle de ça parce que je crois que j'en avais entendu parler, il y avait eu un escape game là-dessus, mais je me demande si c'est vraiment efficace en fait.
En fait, souvent, alors vraiment 99% du temps, t'as pas le droit d'avoir ton smartphone dans l'escape, donc ça fait vraiment partie.
Ça peut aider à résoudre des énigmes.
Résoudre des énigmes ou avoir la lampe de poche, tu vois, il y a plein de trucs qui peuvent t'aider à des moments où t'es dans l'obscurité. Enfin, voilà, normalement, t'es pas censé avoir ça, t'es pas censé avoir de montre, etc. Après, tu as des escapes où, souvent, plutôt quand t'as besoin d'un smartphone ou d'une tablette, ils vont te la fournir avec l'application qui est intégrée dessus. Et là, effectivement, tu vas avoir des mécanismes de jeu qui vont être soit des indices qui vont être sur la tablette, soit des énigmes qu'il va falloir résoudre. Effectivement, ça peut bien fonctionner aussi. J'en avais fait une, par exemple, qui fonctionnait comme ça. C'était en extérieur, c'était dans Paris, mais il y en a un peu partout en France aussi, où en gros, tu vas te balader dans la rue à certains endroits avec de la réalité augmentée. Tu vas devoir chercher certains indices à certains endroits, flasher certaines bornes qui se trouvent dans telle ou telle rue. C'est d'autres mécanismes, c'est intéressant aussi. Ça fait un peu plus chasse au trésor.
Oui,
tu vois.
C'est ça.
Là, on est plus dans cet esprit-là.
Merci Anthony, ça donne
envie.
C'est
déjà fini. Oh là là,
écoute, attends, franchement, mais t'en parles avec tellement de passion que tu sais quoi, ça me donne envie. envie d'un truc, d'en faire et d'en faire un avec toi.
Mais faut qu'on on va monter une équipe d'EQJMM et puis on va aller s'en faire un.
Ça serait cool.
Tu vois, ouais. Je redonne une toute petite référence pour terminer. Allez, ouais. C'est The Game, qui est une très très bonne franchise aussi à Paris. Si vous voulez un truc entre guillemets relativement classique, mm-hmm. avec des très très bons mécanismes de jeu, ils ont plein de scénarios. T'en as un où t'es dans le métro parisien et enfin, je vous en dis pas plus. Un autre, c'est le braquage du casino, braquage de la banque. Ça, c'est des scénarios assez classiques. Ça peut fonctionner en famille, ça peut fonctionner entre collègues. Juste pour vous dire que voilà, j'aime pas que les trucs d'horreur qui font peur et je suis pas un psychopathe. Voilà.
Ça, sans doute. Hein, c'est pas parce que tu regardes des films d'horreur, t'es psychopathe.
Non, bien sûr.
Mais c'est vrai que c'est, ça se prête beaucoup à ce type d'exercice.
Exactement.
En tout cas. Merci Anthony.
Merci François, merci.
C'est quand le prochain Escape Game, là, c'est prévu ou pas?
Bah écoute, c'est pas encore prévu, mais franchement, faut vraiment, on essaye d'ici la fin de la saison.
Nous, alors attendez, vous qui êtes peut-être à l'origine de nouveaux Escape Games, parce que bah, voilà, vous êtes passionné et que vous en créez, ouais. Laissez-nous des messages sur typiquement les commentaires de YouTube.
Oui. Et dites-nous vos préférés aussi, parce que encore une fois, moi j'en ai ça fait une cinquantaine, mais je suis passé à côté de plein d'entre eux, donc vraiment.
Et si Anthony vient, ça peut être cool quand même. Ouais. Hein. Merci beaucoup. Et vous restez avec nous, on va attaquer notre deuxième module de Quoi je me mail. On va changer carrément d'univers. On va parler de télé, puisque c'est vrai que là, les événements sportifs vont s'enchaîner. Et comment justement regarder tous ces événements sportifs sur une bonne télé? Peut-être est-ce que tout ça va vous donner envie de changer de modèle? Lionel Costa, qui est responsable du développement du Labo Fnac, sera en deuxième partie pour nous donner justement tous ses conseils. A tout de suite et merci d'être là.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà, deuxième partie de ce De quoi je me mêle après les Escape Games d'Anthony Morel. Et bien maintenant, on va se plonger dans le Labo Fnac, qui n'est pas un Escape Game. Hein. Vous n'avez pas peur, hein, il n'y a pas de souci. Enfin, sauf si vous avez peur d'objets électroniques, parce que là, franchement, ça peut faire flipper. Lionel Costa nous a rejoint. Salut Lionel.
Salut François.
C'est bien rangé au Labo Fnac ou c'est un peu le foutoir quand même?
C'est une idée qu'on a depuis longtemps de se faire un escape game dans le Labo Fnac, hein, avec toutes les salles, tous les équipements, voilà, des énigmes, qu'est-ce que j'appuie pour pas faire exploser quelque chose. Ça peut être un scénario à faire.
Ouais, c'est cool. Le Labo Fnac, vous le savez, qui depuis plus de 50 ans maintenant, teste d'innombrables produits. Et là, on va s'intéresser aux télévisions, parce que c'est vrai que là, il y a pas mal d'événements sportifs, mais d'une manière générale, c'est vrai qu'une télé... voilà, récente, bah, nous permet d'augmenter notre expérience, hein, avec les Netflix, l'Amazon Prime, les Disney+, etc. On a des super qualités. Donc, il nous paraissait intéressant de faire un point justement sur l'état de l'art en matière de télé en ce milieu de l'année 2024, hein, Lionel.
Et justement, pour préparer les futurs événements sportifs, ça c'est une question qui revient souvent vers nous, c'est, moi je regarde du foot par exemple, quelle télé vous me conseillez? Et c'est vrai que tu parlais de Netflix, c'est pas forcément les mêmes attentes, les mêmes critères techniques pour voir une série télé, Game of Thrones, Walking Dead, etc., ou de regarder un match de foot, ou de regarder des documentaires. Et la partie sport, c'est vraiment le critère qui est, à la rigueur, un petit peu le plus mésestimé. En tout cas, il y a toujours des profils sport dans les réglages d'une télé, mais comment est-ce qu'on choisit bien une télé pour regarder les sports? Et là, à l'occasion des Jeux de Paris 2024, ce qu'on essayait de faire, c'est de donner des tips, des conseils pour... bien sélectionner les choses, et s'il y a des gens qui sont justement à la recherche d'un nouveau télé parce que ça fait longtemps qu'ils ont leur ancienne et qui sont fans de sport, écoutez bien, parce qu'il y a quand même des éléments qui sont prépondérants.
En plus, ce qui est intéressant, c'est que ces JO seront retransmis en 4K, et ça c'est cool, et gratuitement en plus, via la TNT. On avait enterré peut-être un peu trop rapidement la TNT, hein, qui mine de rien est toujours là, et permet d'avoir sans doute les plus belles images techniques, hein,
c'est ça.
Grâce à une antenne qu'on a sur le toit, quoi.
En fait, petit rappel, c'est vrai que la TNT aujourd'hui, qui était déjà une évolution, on est passé au Full HD. En fait, du Full HD, c'est 1920 par 1080 en résolution, avec une qualité audio qui est moyenne, mais qui permettait pas de bénéficier de toutes les avancées technologiques. DVB-T2, donc le TNT2, la nouvelle norme intègre plein de choses, dont le 4K, ce que tu viens de dire, le 4K progressif. Entrelacé progressif, un petit rappel là-dessus, entrelacé, c'est-à-dire que c'est une trame, toutes les deux trames qui s'affichent, et de façon intermittente, ce qui fait que ça économise de la bande passante. Du 4K progressif, c'est que chaque trame est une information pleine et entière.
On a du... Donc il y a une meilleure qualité en progressif qu'en entrelacé,
oui,
on est d'accord.
Hein. Et donc on a ce 4K progressif, on a également un encodage vidéo différent, je ne vais pas noyer les gens là-dessus, mais on est sur du H.265 qui permet d'avoir une compression plus grande évidemment, et d'avoir une qualité, une bande passante qui n'a pas besoin d'être... enfin la qualité qui est grande, mais une bande passante qui est réduite. Donc tout ça, tous ces éléments-là qui vont être poussés spécialement pour les Jeux Olympiques, mais qui existent déjà aujourd'hui pour les gens qui ont des télécompatibles sur la chaîne 52 et 53, France 2 et France 3, peuvent déjà voir s'ils peuvent bénéficier de cette qualité-là. Ouais. Et de la 4K pour le sport...
Il faut refaire un scan de votre TNT, tout simplement. Hein.
Oui, c'est ça. Et si vous avez une télé qui a moins de 10 ans, c'est compatible. Là où il peut y avoir un risque, c'est les télés qui ont plus de 15 ans ou plus de 10 ans, oui, où là on peut peut-être avoir...
Qui sont pas compatibles TNT 2, en fait, DVB-T2.
C'est ça, exactement. Hein. On a peut-être besoin d'un adaptateur, mais faites le test, parce que normalement, si elle a moins de 10 ans, même peut-être moins de 12 ans, ça devrait passer normalement.
Et ça, c'est cool, parce que c'est une norme qui, mine de rien, est très installée dans le parc. Hein, parce
exactement.
Que si vous avez une télé qui a 8 ans et que c'est compatible, c'est cool. Enfin, c'est du bonus.
C'est du bonus, exactement.
On va dire. Et donc, voilà, la plupart des épreuves seront retransmises sur France 2 et France 3 en 4K.
C'est ça.
Et France 2 sera pérennisée en 4K après. C'est ça qui est
oui,
cool.
Oui, c'est ça. Après, c'est juste la bande passante dédiée spécifiquement au sport va peut-être être un petit peu diminuée pour laisser place à d'autres émissions. Parce que tout ça, c'est de l'arbitrage de stream, hein, c'est de l'arbitrage de diffusion. La bande passante, elle n'est pas illimitée. Donc, selon les événements, ils vont pousser. Et je voulais revenir juste sur la partie définition. Beaucoup de gens peuvent se dire, bon, la définition, est-ce que c'est si important que ça si je vois du tir à l'arc, si je vois... oui, effectivement, du tir à l'arc avec des gros plans, c'est pas forcément là où la définition est importante. Mais si je regarde par exemple un match de foot ou des nageurs ou du ping-pong, le détail pour
bien
suivre
sûr.
La balle, pour suivre le joueur, le numéro derrière son maillot, c'est pas anodin, c'est loin d'être anodin.
Non, mais c'est clair. Voilà. Surtout si on a un grand écran, parce que évidemment la 4K apporte évidemment un confort visuel si vous avez de grands écrans. Hein. Aujourd'hui,
encore
on
plus,
parle
oui.
de 55, 65, 85, 98
100,
pouces. Enfin,
pouces.
Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, vous allez dans une Fnac ou dans n'importe quel magasin, vous avez des grands écrans avec des prix qui baissent justement.
Oui.
Si on rentre dans le détail, Lionel, comment choisir une télé là, voilà, mi-2024, c'est encore la jungle, il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup de marques.
Oui.
Évidemment, il y a les Samsung, les Sony qu'on connaît, mais il y a TCL qui monte en flèche. Voilà, il y a du Hisense. Enfin, il y a plein de marques aujourd'hui.
On a forcément les grands majeurs, hein, Samsung, LG, Sony, Panasonic, TCL, Hisense. Maintenant, ce sont des gens qui sont installés sur le parc. C'est vrai que Samsung est vraiment le leader du marché, hein, vraiment
incontesté.
Ouais, incontesté au niveau. Enfin, ils sont vraiment sur le marché complètement. Mais LG est pas mal du tout. Sony aussi derrière. Philips aussi. Hein, j'oublie pas Philips. Comment bien les choisir? Sur l'argumentaire sport en tout cas, mais il y a tous les argumentaires. Évidemment, nous, sur la partie télé, on teste la colorimétrie, la vue angulaire, l'uniformité, le contraste, la progressivité. Sur la partie sport, la partie colorimétrie reste quelque chose d'important, le gamma. Pourquoi je dis ça? Le souci que n'importe qui peut avoir en regardant avec un vidéoprojecteur ou une télé un petit peu bas de gamme, si je vois un joueur sur un écran extrêmement vert avec la pelouse, cet aplat vert va complètement saturer l'image. Et on va se retrouver avec de la bavure partout. Et en fait, dans les tests que nous faisons, nous vérifions justement est-ce que la couleur ne bave pas, ne va pas sur le côté. Et c'est aussi le même phénomène qu'on peut avoir sur une table de ping-pong ou sur du tennis Roland-Garros, puisqu'on va avoir normalement de la terre battue pour les jeux. Donc on va avoir la colorimétrie qui est extrêmement importante. Là, on a plusieurs technologies. Si on ne parle pas encore de nos tests, hein, si on ne parle que de technologies, on a le OLED, le QLED, le mini-LED, le LCD classique. Et là, clairement, le OLED... Et au-dessus du lot.
Encore aujourd'hui.
L'OLED.
Parce que c'est vrai que tout le monde, enfin, les concurrents qui n'ont pas choisi cette stratégie de l'OLED disent que maintenant, ben voilà, on fait encore mieux avec le mini LED, etc., etc. Mais l'OLED reste le nec plus ultra.
En termes de précision,
ouais,
oui. Le mini LED, un excellent apport technique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le mini LED, hein, pour le rappel, c'est un rétroéclairage qui contrôlait beaucoup plus finement qu'avant, où c'était des dalles, grosso modo, qui s'allumaient pour faire le rétroéclairage. Le OLED n'a pas besoin de rétroéclairage, donc il est beaucoup plus fin sur et la puissance et le pilotage de la luminosité et le pilotage de la colorimétrie, beaucoup plus fin.
Ouais.
Mais il y a un autre point sur lequel l'OLED est encore bien meilleur que le mini LED, mais techniquement, hein, intrinsèquement, c'est la vue angulaire. Le OLED, puisqu'il n'a pas différentes strates de rétroéclairage de filtre, il n'a besoin que d'une couche. il illumine partout, donc la vue angulaire est assez excellente. Là, on voit des images en même temps qui montrent justement l'intérêt de la saturation de la couleur, où on voit un maillot totalement rouge, fluo, bronzé. C'est vraiment une couleur qui est assez désagréable, contrairement à un rouge qui serait beaucoup plus pâle, mais beaucoup plus réaliste, et qui nous permettrait de voir des plis et des petits détails. Pareil pour le foot. Il y a beaucoup de petits éléments qui peuvent rendre le spectacle sportif beaucoup plus agréable.
Donc l'OLED, choix premier, on va dire, si vous avez l'argent, parce qu'on va en parler dans un instant. L'OLED coûte un peu plus cher, même si les prix baissent, mais ça coûte plus cher que les technologies traditionnelles. À noter que sur votre téléphone, si vous avez un téléphone récent, vous avez déjà de l'OLED. L'OLED, c'est quasi généralisé sur les téléphones. Pourquoi ? Parce que ça permet du contraste, ça permet de malgré tout protéger la durée de vie de la batterie. Enfin, il y a plein de choses.
Meilleure autonomie.
Donc voilà, imaginez la qualité d'image que vous avez sur votre téléphone sur un grand écran, c'est un peu ça. C'est rigolo parce que l'OLED sur les petits écrans, c'est Samsung le spécialiste, mais sur les grandes tailles d'écran sur les télés, c'est LG.
Ils sont un peu répartis, je pense, le marché en Corée du Sud. Et je reviens sur ce que tu dis, c'est vrai que le OLED est plus cher, mais bon, tu m'invites assez souvent pour pouvoir dire que le prix ne fait pas forcément la qualité, mais là, c'est justifié. C'est-à-dire que là, on a un vrai résultat lié à ce prix-là qui est un peu plus élevé. Mais je vais rassurer quand même tout le monde, les produits qui sont vendus aujourd'hui, sauf si vous cherchez les premiers prix, tous les produits vont satisfaire la plus grande majorité des spectateurs. Là, on parle d'exigences, de gens qui veulent vraiment une image et qui sont très exigeants sur la qualité de leurs produits. Donc, le OLED aujourd'hui, techniquement, il est au-dessus. Mais les autres ne sont pas forcément à jeter à la poubelle, pas du tout. C'est juste que sur la partie précision et vue angulaire, c'est vraiment deux éléments l'OLED gagne.
Précision, vue angulaire, contraste infini, voilà, les noirs sont noirs sur l'OLED, puisqu'en fait ce sont des petits pixels qui s'éteignent et qui s'allument, donc forcément.
Le mini LED aussi. Mais justement, pas aussi précisément, parce que le mini LED, c'est donc des lumières qui sont en backlight et vont être pilotées. Avant, c'était toute la dalle ou la moitié de la dalle ou une partie de la dalle. Là, c'est beaucoup plus fin. On peut vraiment aller sur 800 zones par écran qui vont être pilotées. Donc, il va éviter cette espèce de fuite de lumière qu'on peut avoir.
Un mot sur tous ces raffinements techniques qu'on trouve maintenant, le HDR, le Dolby Vision, ça s'arrête jamais, tous ces trucs-là. C'est un vrai plus, ça, où il faut regarder quand on achète une télé ou pas ?
Oui, c'est un argument, c'est un tampon sur les cartons et sur les produits. On se dit, c'est un sticker HDR10, ils vont nous sortir le HDR 90 et tout. Mais HDR10 ou HDR12, ça a quand même un vrai intérêt. Pour rappel, HDR 8 bits, parce que HDR, c'est High Dynamic Range, donc c'est la progressivité de la dynamique du noir au blanc sur 8 bits, ça veut dire que c'est 255 paliers. De 0 à 255. Le HDR10, c'est de 0 à 1024. Donc en fait, on a beaucoup plus de marche sur la même hauteur. On a toujours sur la même amplitude, on a beaucoup plus de...
Donc de précision, en fait, c'est
exactement.
Ça.
Exactement. Et ce que ça permet, justement de dire, sur une image, j'ai des endroits très saturés et des endroits qui sont neutres, assez moyennasses. Je vais pouvoir abaisser ma courbe de gamma sur les éléments saturés. J'ai assez de finesse pour le faire, pour arriver à avoir du détail là où c'était saturé et continuer à garder mes mêmes nuances de gris ou de couleurs sur le bas des couleurs. Et ça, c'est cette finesse-là, on ne peut pas l'obtenir aussi finement avec le 8 bits. Donc le HDR10, c'est un peu un pari pour l'avenir parce que tous les programmes ne sont pas compatibles HDR10.
Voilà, c'est ce que je voulais te dire, c'est qu'il faut que le programme soit compatible HDR10, qu'il ait été tourné et produit en HDR.
Pour les JO, c'est le cas.
Ok, ça c'est cool.
Pour les JO, c'est le cas. Alors, est-ce que c'est utile sur des sports plein soleil, en plein air, où il y a les caméras et les réalisateurs savent quand même faire leur boulot et ne saturent pas tout Je ne sais pas, mais en tout cas, sur le cinéma et les séries télé, c'est un pari sur l'avenir qui, si vous ne l'aviez pas au début, vous ne pourrez pas retrouver le HDR10. Il faudra rechanger de télé si vous voulez récupérer un HDR10.
Alors, on va rentrer un peu dans le détail maintenant, parce que effectivement, vu le nombre de télés que vous testez au labo Fnac, vous avez la possibilité de nous donner la crème de la crème.
C'est ça.
Quelles sont les meilleures télés du moment, Lionel ?
Aujourd'hui, celui qu'on a testé pour le sport spécifiquement, on en a une qui est excellente, c'est la Sony XR65A80L. C'est une 65 pouces OLED, une Sony. Elle est à 2190 €. Donc, on se fait un peu plaisir. Mais en tout cas, c'est celle-là n'est pas la meilleure sur l'ensemble des éléments, mais c'est la meilleure sur la fluidité d'image, sur la progressivité, sur la colorimétrie. C'est celle où vous allez avoir une image la plus réaliste, précise possible.
Elle est OLED ?
Elle est OLED, oui.
Alors, on parlait d'LG, mais il faut savoir que Sony est présent dans l'OLED. Hein. Ouais. Il achète ses dalles, en fait, chez LG. Et après, il apporte tout son savoir-faire sur le traitement de l'image, etc.
Le processeur, exactement. Justement, je parlais du HDR, parce que tout ça, c'est du calcul en live. Il faut qu'il y ait un processeur derrière le télé. Alors, c'est un petit peu une boîte noire. On ne peut pas, nous, malheureusement, évaluer quel est le processeur le plus puissant pour faire telle ou telle chose. Mais avec nos mires, on voit comment ça réagit. Mais c'est vrai que quand on a un flux qui arrive, que ce soit d'une box ou de l'antenne, c'est le processeur, c'est lui qui va faire le boulot.
C'est un peu la recette maison de chaque constructeur. Exactement. En fait. Hein. Et c'est très, très, très important.
Voilà. Hein.
Donc Sony, évidemment, qui a toujours été bon là-dedans et qui garde encore, on va dire, le haut du podium avec ses télés. Hein.
Exactement.
Mais cette télé de sport, elle est bonne aussi pour le cinéma et pour le jeu vidéo, par exemple.
Oui, c'est du 120 Hz. Donc, pour ceux qui ont une PlayStation, par exemple, hein, puisque c'est la marque Sony, si vous avez une PlayStation et que vous avez une télé Sony, tout est fait pour que tout fonctionne parfaitement.
Ok, d'accord.
C'est vraiment,
elle s'auto-calibre toute seule, etc.
Il y a ce qu'on appelle le FreeSync, ou en tout cas de la synchronisation entre la source d'image et le télé.
On a parlé de HDR10, on n'a pas parlé de Dolby Vision. Oui. Quel est votre point de vue sur le Dolby Vision au Labo Fnac ?
Alors, Dolby est une société privée. Cette société privée, elle fait tout pour justement être implémentée sur tous les appareils. Ouais. Et ça apporte un vrai confort. Alors, d'immersion, ça c'est une chose, mais...
Alors, il y a le son, il y a le Dolby Atmos.
Oui, il y a
le
Dolby Atmos.
Il y a le Dolby Vision aussi.
Et le Dolby Vision, en fait, au niveau colorimétrie, nous, on n'est pas clients, en fait, de tous ces algorithmes d'amélioration colorimétrique. Non pas parce qu'on dit que c'est mauvais, pas du tout. C'est qu'on reste, nous, dans l'idée de la fidélité colorimétrique. Si j'envoie un certain cyan, un certain magenta, un certain rouge, un certain vert, c'est ce
vers-là. Tu dénatures, en fait, l'image originelle, c'est ça ?
C'est un peu ça. Et en fait, on a des réalisateurs qui vont tourner des séquences extrêmement bien faites, etc. Nous, on estime, en tout cas, mais pas de manière autoritaire, mais on estime que le télé n'a pas à re-intervenir là-dessus.
D'accord.
Bien que le Dolby Vision soit très bon, c'est-à-dire qu'il arrive quand même à bien caler les choses et peut-être à améliorer des productions qui n'auraient pas été réalisées correctement. Avec des couleurs un peu fadasses, il va peut-être le rehausser ou le faire pour que ça rééquilibre l'image. Mais ça, on ne le mesure pas parce qu'on est beaucoup plus dans le subjectif et un peu l'artistique.
La meilleure télé du moment, c'est une Samsung pour vous.
J'étais déjà venu en parler, mais c'est la Samsung TQ55S92. Pardon pour les références, c'est toujours à rallonge. C'est une télé OLED 1490, donc une Samsung OLED, qui est de 2023, qui est à 144 Hz en plus en fréquence. Donc il y a un confort de vision. Et celle-là, c'est vraiment la best ever. Enfin, c'est vraiment la meilleure télé de toutes nos sélections.
Meilleure que la Sony ?
Oui, meilleure que la Sony, parce qu'elle, on intègre aussi l'uniformité. Elle est un peu meilleure que la Sony. Et on avait aussi la partie progressivité qui était un peu meilleure sur la Samsung aussi. Mais encore une fois, là, ça se joue sur des pugnèmes. Les top 10 des télés qu'on a testées, les top 10, si je vous les mets pour n'importe qui, ça va satisfaire 99% des gens.
Okay. Là, on est vraiment... Tu veux dire qu'entre la numéro 1 et la numéro 10, l'écart est infime.
Ouais, elle est très faible. C'est des 5 étoiles à chaque fois. C'est pour ça que nous, on essaie de simplifier en disant...
Et c'est cool, ça veut dire que finalement, tous les industriels de la télévision ont progressé. Ouais. Aujourd'hui, tu ne trouves plus de télé mauvaise, en fait.
Il faut vraiment aller chercher dans les
fonds. Ouais, dans les trucs un peu exotiques.
C'est ça, exactement. Mais des ratages de production, ça arrive pratiquement plus jamais.
Lionel, merci pour tout, c'est très sympa. Il nous reste le bon rapport qualité-prix.
Ouais, j'y tiens.
Alors, tu sais ce qu'on va faire. Dis-moi. Ça va être dans le module bonus de Deux Fois Jamel. Parce que là, voilà, notre temps est imparti. Merci de nous avoir suivis. Vous avez déjà, avec tout ce que nous a dit Lionel, pas mal d'informations pour choisir votre télé. Mais si vous voulez connaître le meilleur rapport qualité-prix du Labo Fnac et de Lionel, il va falloir nous écouter exclusivement en audio. Et ce sera notre module bonus qui arrive donc que sur le flux podcast. C'est la particularité, vous le savez, de quoi je mêle. On essaie de vous en donner un petit peu plus avec un petit module supplémentaire. En tous les cas, merci de nous avoir suivis à la fois sur BFM Business, sur YouTube aussi. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine et le module bonus avec Lionel dans un instant si vous êtes avec nous en audio podcast. A tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.